Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média et doublement ravi car je commence par une bonne nouvelle. Les audiences radio sont tombées ce matin. Europe 1 repart à la hausse avec 100 000 auditeurs de plus depuis la rentrée. Et par pure modestie, je vais citer le communiqué officiel de la station. Ces résultats d'audience indiquent une progression en une vague sur la plupart de nos émissions, parmi lesquelles les trois nouveautés stratégiques que sont la matinale de Mathieu Béliard, Culture Média présentée par Philippe Vandel, votre serviteur, et l'équipe et sauvage de Mathieu Noël. Salut aux deux Mathieu. Et pour ce qui est de Culture Média, je donne les chiffres. 899 000 auditeurs en audience cumulée, plus 54 000 par rapport à la vague avril-juillet. Donc, merci à toutes et à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et merci de le faire savoir autour de vous. On est une émission média, mais je vous dire, le premier média du monde, c'est le bouche à oreille. Pas besoin de wifi, même si ça plante, le bouche à oreille est là. L'info média du jour, il concerne la plus grosse dépense culturelle mondiale. Ce sont les jeux vidéo. C'est devant le cinéma. Et on a testé pour vous Stadia, le service de jeux en ligne du géant Google. Nos invités, Daphné Roulier qui est de retour à la télé sur Paris Première avec une émission culturelle iconoclaste. Ils font tout ce que les gens de culture détestent. Ils comparent en creux la culture à un produit dans le décor d'un supermarché. Ça ne pouvait que nous intéresser. Et puis la chanteuse Jeanne Chéral, dont le nouveau disque parle de la joie d'être une femme quarantenaire, de poils sous les bras, de césarienne et même de 69. Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline D'Acosta, va enchaîner après ça.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Pierre Desereau de Pure Média.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous avec ce sourire. C'est les audiences télé cette fois. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir? Vous m'avez dit qu'Anne Holmes, la patronne de la fiction de France Télé, allait être contente.
Oui, elle a de quoi se réjouir, puisque c'est France 3 qui s'est classé en tête des audiences de la soirée avec La Maladroite.
C'est pas vrai.
Exactement, le téléfilm français inédit avec Isabelle Carré que vous receviez hier dans ce studio. Une fiction sociétale sur un thème pourtant difficile.
Exactement.
Celui de la maltraitance infantile, mais qui a été suivi par 4 500 000 personnes. 19,6% de part d'audience, donc un joli leadership pour France 3 avec ce sujet donc pas simple. TF1 est deuxième avec de nouveaux épisodes de la saison 3 de SWAT, sa série américaine avec Shemar Moore. Ce sont 3 900 000 fidèles qui ont répondu présents au rendez-vous, 17,4% de part d'audience. C'est un score en hausse de près de 400 000 téléspectateurs sur une semaine. En troisième position, on retrouve M6 avec un nouveau numéro de la saison 14 de La France a un incroyable talent. Exactement.
C'est fou, hein?
Ouais. Bah oui. Vous avez un suspense de dingue. Ouais. Donc, incroyable talent.
Ça aurait pu être un talon.
C'est vrai. On m'a proposé M6 qui.
Incroyable talon.
Mais non!
Et donc, le concours d'artistes animé par David Ginola, c'était la cinquième soirée d'audition. Elle a été suivie par 3 100 000 Français, 15% de part d'audience. Tout va toujours très bien pour la France, un incroyable talent. Mmh. Au pied du podium, c'est France 2 avec un nouveau numéro de Cache Investigation, le magazine présenté par Alice Lucet. Cache Investigation qui, un an après la crise des Gilets jaunes, s'intéressait aux réformes fiscales mises en place par le gouvernement. Un thème qui a intéressé 2 millions de téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. C'est stable par rapport au précédent numéro du mois de septembre. Alors du côté des autres chaînes, aucune ne dépasse le million, mais de bons scores sont à signaler pour les documentaires qui étaient diffusés sur Arte et France 5. Sur France 5, c'était Mon enfant est homo de Pascal Petit qui était dans ce studio lundi, et ce sont 800 000 téléspectateurs, 3,4% de pardon, c'est un bon score.
Et on l'a encore, c'est un bon score pour un sujet
mais
pas
oui.
Facile.
Décidément, vous portez chance. Et sur Arte, c'était le documentaire Djihadiste de père en fils, un doc de Talal Derki qui a suivi pendant plus de 2 ans une famille syrienne d'islamistes radicaux. Et là, ce sont 600 000 téléspectateurs, 2,7% de part d'audience. Là aussi, un bon score pour ce documentaire.
Merci beaucoup, Pierre Desereau. À demain.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Le journal des médias, c'est maintenant avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Qu'avez-vous de frais ce matin?
De la complaisance chez Ruquier, du désordre dans les manifs, des débrayages chez Radio France et du tennis dans une salle vide.
Alors Cyril, on va commencer avec un petit retour en arrière. En début de saison, Yann Moix avait été le premier invité de Laurent Ruquier dans son émission On n'est pas couché, une interview qui avait beaucoup fait parler.
Au point de susciter une réaction du Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci a estimé que l'entretien a pu paraître comme complaisant en raison, je cite, des anciennes activités de Yann Moix dans l'émission. Pour autant, pas de reproche plus ferme à l'encontre de l'émission de France 2, puisque aucun propos susceptible de contrevenir à la réglementation n'a été relevé par le régulateur de l'audiovisuel.
Le site d'information Slate lance un nouveau podcast appelé « Les forces du désordre ».
Cet épisode, pour, je cite, plonger pompiers au cœur des manifestations et entendre pour la première fois les paroles croisées des forces de l'ordre et des manifestants. Voilà le pitch de ces forces du désordre réalisé par Samia Bazille. Nous lui avons demandé comment elle s'était faufilée au sein des manifestations.
C'est assez difficile en fait parce que les journalistes sont assez mal perçus à la fois des forces de l'ordre et des manifestants. Et en fait, lors d'un précédent documentaire que j'avais réalisé donc de façon indépendante l'année dernière, qui était aussi sur les manifestations, sur le 1er mai, en fait, on avait essayé de m'arracher mon enregistreur. C'était un manifestant et qui avait essayé de le casser. Donc en fait, j'avais un petit peu tous mes sens en éveil. J'avais un petit peu peur aussi des réactions des forces de l'ordre parce que forcément, j'étais au milieu du cortège. Et en fait, ça a donné lieu à des situations qui étaient assez compliquées à gérer. De donner la parole aux personnes pendant la manifestation tout en se protégeant, tout en craignant un petit peu ce qui pourrait arriver en fait.
Alors pour vous faire une idée, je vous propose d'écouter un extrait de ce podcast.
Vous avez donc une rue qui est ici occupée par les manifestants et qui ont mis en place des barricades pour empêcher le déploiement des forces. Vous voyez, donc là, on a des tirs de dispersion qui viennent d'être opérés pour dégager les manifestants.
Donc beaucoup de lacrymos.
Donc les lacrymogènes qui ont été employés. Tout ça en vue de protéger les adversaires. C'est-à-dire qu'on va s'en aller parce que là, sinon, on va vite pleurer.
Samia Bazille a passé un an sur ce projet de podcast. Elle nous explique en quoi le format audio lui a permis de se faire une place plus discrète parmi les manifestants et surtout comment elle s'y est prise pour choisir parmi ses innombrables heures d'enregistrement. Samia Bazille est interrogée par Alexandre Omar.
Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui auraient peut-être été déstabilisées s'il y avait l'image, si ça avait été filmé. Ça m'a permis d'approcher peut-être plus facilement des gens qui autrement n'auraient pas voulu parler. Et puis d'être vraiment en immersion totale. Alors pour la construction elle-même, en fait, ça a été forcément un travail de longue haleine parce que ça a été beaucoup, beaucoup retravaillé au fur et à mesure de mon reportage. Mais l'idée, en fait, qu'on a retenue avec Slate, donc qui sont mes producteurs, c'était de parler de la manifestation avant, pendant et après. Et en passant par vraiment le cœur du cortège des affrontements s'il y en a.
Les forces du désordre, c'est une série podcast en 7 épisodes à retrouver sur slate.fr.
Radio France se prépare à quelques journées difficiles.
Ouais, 4 syndicats du groupe de radio appellent à la grève à partir de lundi prochain. Une grève qui pourrait bien durer. La SFDT, le SNJ et Sud demandent à leurs adhérents de débrayer toute la semaine prochaine. Quant à la CGT, elle demande de son côté une grève reconductible indéterminée. Les organisations syndicales protestent contre le plan de départ volontaire voulu par leur présidente, Sybille Veil, qui prévoit la suppression de 299 postes. Les 4 syndicats demandent la levée de ce plan et le maintien du même niveau de subvention publique. Une baisse de 20 millions d'euros est prévue d'ici 2022. Cet appel à la grève s'annonce comme une épreuve de force pour Sybille Veil. On se souvient qu'en 2015, Radio France avait été secouée par un mouvement social qui s'était éternisé durant 28 jours, paralysant en partie les décisions de Mathieu Gallet, nommé PDG un an auparavant.
Et alors Cyril, vous êtes très sport en ce moment, parce qu'après la spéciale basket d'hier, vous nous parlez ce matin de tennis.
Ouais, tennis parce que vous l'ignorez peut-être, mais en ce moment même se déroule la Coupe Davis, une Coupe Davis nouvelle formule qui se joue sur une seule semaine et dans une seule ville, Madrid, pourquoi vous riez ?
Je ris parce que j'ai écouté Canteloup ce matin qui a chambré ce qui se passe à Madrid, donc évidemment que je connais cette info, mais racontez pour ceux qui l'ignorent.
Voilà, en France, la Coupe Davis est passée du service public à TMC, qui diffuse donc pour la première fois des rencontres de tennis. Pour l'heure, on ne peut pas dire que les matchs créent le même engouement populaire que dans le format précédent. Les tribunes sont largement dégarnies et question audience, c'est plutôt mauvais. 107 000 téléspectateurs hier devant, soit 1,4% de part de marché, avec aucune courbe qui frémit, m'a dit un spécialiste des audiences. Alors, ce format est-il déjà condamné ? Nous avons posé la question à Arnaud Clément. L'ancien capitaine de l'équipe de France fait partie de l'équipe de consultants de TMC. Il est interrogé par Alexandre Marin.
Moi, je m'étais prononcé régulièrement, justement, sur ce format et j'étais un fervent partisan du contre ce changement de format. Donc voilà, écoutez, maintenant c'est comme ça, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il faut donner sa chance au produit, même si je suis assez sceptique, parce qu'on a pu voir, notamment sur la réservation des places, mis à part les matchs de l'Espagne à guichet fermé, on a vu que tous les taux de remplissage étaient pour l'instant très faibles. Après, bon voilà, il y a beaucoup de joueurs des 10 premiers qui n'y participent pas, hein, parce qu'on était quand même parti postulat de départ sur le changement de format, c'était la participation de... les meilleurs, là il y a plus de la moitié des 10 premiers qui ne sont pas présents. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et il faudra qu'il y ait du monde, il faudra qu'il y ait des bons joueurs, des bons matchs, beaucoup d'ambiance et voilà, s'il y a tous ces ingrédients, ça peut faire une belle compétition quand même.
Alors pour susciter l'intérêt, il faut espérer une belle performance des Français, un sujet là aussi sur lequel Arnaud Clément se montre relativement prudent.
Je pense que l'équipe de France a une équipe qui est très forte. Alors non, on n'a pas de joueur qui était qualifié pour le Masters. On avait Gaël Monfils qui n'était pas très loin, qui était juste derrière, à un match près. Il aurait gagné de plus à Bercy, il aurait participé justement à cette dernière compétition individuelle de l'année. Et on a un Joe Wilfried Tsonga également qui revient très fort en fin de saison, qui a gagné un titre en indoor, qui a très bien joué à Bercy, on l'a vu. On a une équipe de double qui vient de gagner le Masters. Donc voilà, et puis on a éventuellement aussi un Benoît Paire qui a fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, donc qui arrive aussi avec beaucoup de confiance. Donc on a une équipe vraiment qui est très compacte et très compétitive.
Jusqu'ici, les Bleus ont remporté 2 matchs et perdu 1 face au Japon. Leur prochaine rencontre sera à suivre demain, jeudi, face à la Serbie et donc sur TMC. Enfin, Philippe, pour terminer ce journal, j'ai une question pour vous.
Le dessin animé Oui Oui a été adapté en film.
Non, non.
Et bravo, bonne réponse. Un petit clin d'œil.
C'était pas prévu, c'est drôle.
Un petit clin d'œil. Pour vous rappeler que ce soir, c'est le retour de Burger Quiz, toujours sur TMC, avec le désormais grisonnant Alain Chabat pour le premier épisode et Jean-Paul Rouve dans le second comme maître des cérémonies. Allez, faisez-vous plaisir.
Ouais, Chabat, aussi drôle qu'au début. C'est rare que le type présente la même émission avec autant d'années d'écart. Vraiment bravo. Merci Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain,
ouais, demain
pour un nouveau journal des médias, mais avec la même tête.
À suivre, on espère en tout cas. À suivre l'infomédia du jour avec au menu Stadia, le service de jeu en ligne de Google. On parle jeux vidéo dans Culture Média et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Et je le rappelle souvent ici, les jeux vidéo sont la plus grande dépense culturelle planétaire devant le cinéma. Je vais donner un ordre de grandeur. Fortnite compte à lui seul 250 millions de joueurs dans le monde, soit un adulte sur 20. Et voici pourquoi le jeu vidéo aiguise les appétits des GAFA. Et cette fois, c'est Google qui s'y met. Le géant lance Stadia, sa plateforme de cloud gaming. L'annonce date de mars, mais les débuts effectifs datent d'hier. Dans 14 pays, dont la France, et on l'a testé pour vous, on avait 24 heures. Cloud gaming, ça veut dire que tout est dématérialisé, il n'y a pas de console, pas d'ordinateur dédié, il faut juste une manette, et stratégiquement, c'est une opération à haut risque pour le géant américain, car le cloud gaming a encore du mal à séduire, et les premiers échos, on va le dire, ne sont pas très convaincants. Alors, question, Google a-t-il raté son lancement? Quels sont les jeux disponibles? Quelle est la plus-value du cloud gaming par rapport aux consoles traditionnelles? Et comment réagit la concurrence? Pour en parler, j'accueille Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Les auditeurs de Culture Média vous connaissent bien, vous êtes journaliste à Europe 1 et spécialiste des jeux vidéo. On vous entendra tout à l'heure en fin d'émission d'ailleurs.
Exactement.
Pour nous parler d'un autre jeu. Et Jean Kléber Loret, bonjour Jean Kléber.
Bonjour.
C'est une première dans cette émission. Vous êtes en charge de la rubrique high-tech chez jeuxvideo.com et vous êtes un privilégié puisque vous avez pu longuement tester Stadia. Première question, puisque l'argent est le nerf de la guerre, combien coûte l'abonnement et où peut-on jouer, Clément?
Alors ça coûte 9,99€ par mois, ça c'est l'abonnement mensuel. Après il y a un premier pack, c'est-à-dire qu'il faut, pour commencer à jouer à Stadia, il y a un pack à 129€,
ouais,
qui comprend la manette, qui comprend aussi le boîtier Chromecast, qui est un boîtier qu'on relie à sa télé pour pouvoir jouer sur la télé justement. Donc tout ça coûte 129€, il y a un jeu qui est inclus dedans aussi. C'est un prix qui est effectivement bien moins élevé que celui d'une console, hein. Si on veut acheter une PS4 ou une Xbox aujourd'hui,
ça coûte
entre aux alentours de 300€, quoi, à peu près. Donc on est vraiment sur la gamme du dessous. Maintenant, c'est deux offres totalement différentes qu'on va détailler.
On peut jouer sur le smartphone aussi?
Oui, alors l'idée c'est que justement Google vend ça comme un truc, quelque chose de multi-écran. On peut jouer sur la télé avec le Chromecast,
ouais,
on peut jouer sur un téléphone et on peut jouer sur n'importe quel ordinateur. Donc l'idée c'est d'avoir que n'importe quel écran devienne une console de jeu.
Un téléphone de n'importe quelle marque,
alors,
ça marche
non.
aussi avec Apple?
Alors,
parce
non,
qu'il y a des guerres,
voilà,
non
a, alors, si vous avez du Apple, oubliez, aujourd'hui ça ne fonctionne que sur les smartphones de chez Google, donc les Pixel, Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4.
Je ne sais même pas que ça existait, pour tout vous dire.
Voilà, ça reste...
Mais c'est marginal, non, les smartphones de Pixel? Ou peut-être que ce n'est pas marginal aux États-Unis?
Non, c'est marginal aux États-Unis, un peu moins qu'en Europe, mais ça reste marginal malgré tout.
Mais devant eux, il y a Apple, il y a Samsung, il y a Huawei, il y en a plein d'autres.
Après, Google promet qu'ils vont étendre la compatibilité de Stadia à plus de marques différentes, plus de modèles de smartphones différents. Mais comme Google, c'est Android, on va rester sur l'écosystème Android, en tout cas pendant un bon moment.
Alors, on va entendre Phil Harrison, qui est le responsable du projet Stadia chez Google. Il est évidemment très enthousiaste lors de la conférence de présentation, c'était en mars.
Stadia offre un accès immédiat au jeu. Pas de téléchargement, pas de correctif, pas de mise à jour et pas d'installation. Notre but avec Stadia, c'est de supprimer les obstacles entre être excité par un jeu et jouer à ce jeu. Vous pouvez simplement cliquer sur un lien et commencer à jouer. Attendre pour profiter d'un jeu appartient désormais au passé.
of the past.
Jean Kléber, vous l'avez testé, ça marche aussi bien que ça, on clique et on joue ?
Alors, pour le coup, oui, ça c'est vrai que cette promesse-là, elle est tenue, ouais. Parce que ça c'est assez magique. Quand on a un compte Stadia, on va sur Chrome, donc le navigateur Internet, sur n'importe quel ordinateur notamment, on se connecte à son compte Stadia et on fait lecture, on appuie sur Play et le jeu se lance instantanément. Pas d'installation, pas de téléchargement, pas d'attente en fait. Les freins sont vraiment enlevés.
Est-ce qu'on peut commencer une partie chez soi et la finir dans le bus avec son portable ?
Alors techniquement oui, sauf que avec un portable dans le bus, vous serez en 4G et la connexion 4G sera peut-être pas assez
ah oui,
suffisante.
On va parler des problèmes de connexion. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu disponible, Clément ?
Alors pour l'instant, le catalogue est un peu restreint. C'est un petit souci quand même quand on fait un lancement comme ça, surtout si on est Google, qu'on est un géant et qu'on propose pour l'instant qu'une vingtaine de jeux.
Et qu'on est très riche.
Le symbole de ça, c'est qu'en urgence, la veille du lancement, Google a rajouté une dizaine de jeux aux 12 qui étaient prévus.
Ouais. Donc il y en a 22.
Il y en a à peu près 22 parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas séduire grand monde avec une douzaine de jeux parce que le problème, c'est que ces jeux, ce n'est pas des jeux récents, c'est des jeux pour certains qui sont sortis il y a 2, 3, voire 4 ou 5 ans pour certains qui sont des beaux jeux. Ouais. Donc, par exemple, on a la trilogie Tomb Raider, la dernière, donc il y a eu 3 jeux depuis 2013 qui sont des jeux vraiment très très bien. Mais qui ne sont pas des jeux récents, donc il y a de fortes chances pour que les joueurs de jeux vidéo aient déjà au moins fait un de ces 3 jeux. Pareil, il y a le dernier Assassin's Creed, mais qui est sorti, lui, il y a 1 an et demi maintenant.
Et vous voulez dire que les gamers ont déjà ce jeu, donc c'est peut-être pas la peine d'aller s'inscrire.
Donc, en fait, il y a une vingtaine de jeux, mais il n'y a qu'un seul jeu qui est exclusif à Stadia, c'est Guilt, qui est un jeu un peu indépendant,
ouais.
Qui n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas ça qui va faire venir les gens.
Je ne m'y connais pas assez pour savoir ce qu'est un jeu indépendant. C'est quoi
un jeu
indépendant ?
C'est un jeu qui,
on joue.
On va dire qu'il n'est pas un blockbuster. Ce n'est pas un énorme jeu avec des énormes moyens, les graphismes sont pas des graphismes incroyables, c'est plus une histoire, un scénario intéressant avec des personnages attachants.
Jean-Clébert Leray, vous y avez joué à ce jeu ?
À Guilt ?
Ouais.
Oui, un petit peu.
Alors,
oui.
Alors, c'est bien.
C'est très
artistique. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il est indépendant.
En fait, ça ressemble un petit peu à des. Dans l'esprit, ça ressemble un peu à des films comme Coraline ou des films de Tim Burton. Il y a un côté film d'animation un peu dark.
Ouais.
Donc, c'est un petit studio qui fait ça, c'est un studio espagnol. C'est très sympa, mais c'est pas suffisant pour faire vendre, un service comme Stadia.
Alors, ils vont pas rester là, Google ?
Non.
Qu'est-ce que vous avez comme info ? Quels sont les jeux attendus ou annoncés ?
Alors, l'idée de Google, c'est qu'au fur et à mesure, il y ait les jeux sur Stadia au moment où ils sortent sur les autres plateformes. C'est-à-dire que typiquement, un des très gros jeux de l'année prochaine, ce sera Cyberpunk 2077. C'est un jeu de science-fiction qui s'annonce vraiment incroyable. Il y a une grosse attente autour de ce jeu. L'idée, c'est que quand il va sortir sur PS4, ce sera au printemps, et sur Xbox et sur PC, il soit aussi disponible sur Stadia dès le lancement pour que les gens se disent « j'ai les mêmes jeux sur Stadia que si j'avais une PS4 ou une Xbox, que je ne sois pas lésé si j'achète Stadia et que je n'ai pas à attendre 6 ou 7 mois de plus. »
Je pense aux parents qui nous écoutent et qui préparent les cadeaux de Noël. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que, par exemple, je vais prendre un jeu Star ? Est-ce que les Lapins Crétins ou est-ce que FIFA 2020 sera sur Stadia ?
C'est pas annoncé en tout cas, donc a priori
mais
non.
Mais d'après vous
Non, parce que...
C'est pas le but, c'est ce que je veux dire. C'est...
Oui, non. Clairement, aujourd'hui, les jeux Stadia sont quand même ajoutés au compte-gouttes et le catalogue de jeux qui est disponible sur Stadia n'est pas hyper grand public. Faut le dire, ça reste des jeux très, ce qu'on appelle hardcore gamers pour des gens qui s'y connaissent déjà très bien. Pas des choses très grand public, les Lapins Crétins. Il y a Just Dance, bon, qui est un succès grand public pour le coup, qui est disponible. Mais sinon, pour le moment, Ubisoft travaille beaucoup avec Stadia, donc c'est pas impossible qu'un jeu Lapin Crétin arrive. FIFA, par contre, il n'y a rien d'annoncé.
On va continuer à parler de Stadia, on va parler aussi de l'écosystème, on va parler de la concurrence. Vous allez nous dire si vous pensez que les choses vont rester là. Je sais que déjà, les concurrents changent leur prix à cause de Google.
Oui, Culture Média continue. Vous pouvez nous écouter et nous regarder également sur europe1.fr. Nous rejoindre aussi sur Twitter, E1 Culture Média, tout accroché. On revient dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Les jeux vidéo sont la plus grande dépense culturelle planétaire. On en parle dans Culture Média avec le géant Google qui a lancé hier Stadia, sa nouvelle plateforme de jeux vidéo. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? On comprend tout grâce à vos invités, Philippe, notre spécialiste jeux vidéo Clément Le Saffre et Jean-Clébert Leray, journaliste en charge de la rubrique high-tech chez jeuxvideo.com.
Alors on a parlé des jeux, on a parlé du prix, on va parler de la technique. On va écouter à nouveau Phil Harrison qui est le responsable du projet Stadia chez Google. Et il promet monts et merveilles au niveau technologique.
Au lancement, il sera possible de jouer à des jeux via Stadia sur ordinateur, ordinateur portable, télévision, tablette et téléphone. Cette nouvelle génération du jeu vidéo n'est pas une machine. Avec Stadia, la plateforme, c'est le data center. Il n'y a pas de console qui limite les joueurs.
C'est vrai ça, rien ne limite les joueurs, Jean-Cléber Loret.
Ah bah rien ne limite les joueurs en dehors de la qualité de vos connexions internet, ce qui est quand même quelque chose de très important, même de primordial pour le cloud gaming.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez jouer facilement en cloud gaming, autant sur Netflix, on a l'habitude, Netflix fonctionne à peu près partout, pour du cloud gaming, il faut une connexion vraiment très, la plus haute gamme possible, donc idéalement il faut de la fibre. Ouais. La fibre c'est disponible dans les villes surtout, hein, dès qu'on sort des villes c'est compliqué. Google aujourd'hui préconise en fait une connexion, alors on parle un peu chiffres rapidement, à 35 mégabits seconde, donc c'est-à-dire quelque chose d'une bonne fibre pour jouer sur une télé 4K, donc pour avoir la définition la meilleure possible.
Ah oui.
Donc c'est à la fois beaucoup et à la fois ça se démocratise quand même pas mal. Donc voilà.
Le chiffre que vous donnez, est-ce qu'on l'a oui. par exemple pour les gens qui n'ont pas la fibre mais le câble?
Alors le câble et la DSL non, et à une connexion moindre. Ceci étant dit, j'ai un collègue qui habite un peu loin et qui a une connexion à DSL qu'il a testé sur une petite connexion et il m'a dit que ça fonctionnait, mais la qualité visuelle des jeux est largement dégradée. En fait.
Et tous les gens qui jouent au jeu sur leur téléphone portable, c'est quoi le débit d'un téléphone? Est-ce qu'on peut jouer Stadia dans le bus, dans le train
Très honnêtement, je dirais non aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on se limite à la 4G.
Vous avez essayé, j'imagine?
Oui, j'ai essayé.
Et ça plante?
Ouais. Non, ça fonctionne, mais ça fonctionne très mal. C'est-à-dire que le jeu va se mettre à ramer, il va y avoir des problèmes d'affichage. C'est pas viable en fait à terme.
Aujourd'hui, Google, quand on joue sur téléphone, recommande de jouer en Wi-Fi en fait.
Voilà, c'est ça.
En Wi-Fi et avec un Wi-Fi solide. Encore une fois, pas un Wi-Fi par exemple de votre bureau où tout le monde est sur le même réseau, ça c'est pas possible.
Hein, ils attendent peut-être la 5G. Qui va arriver en 2020, parce que c'est ça, quand on lance un produit, on sait que, tout l'écosystème n'est pas encore en place.
C'est l'idée, mais c'est un sacré pari, parce que la 5G en 2020, encore une fois, 5G en 2020, dans les très grandes villes, dans le centre de ces très grandes villes, mais certainement pas dans les villes moyennes et encore moins dans les campagnes. Hein. Il faut complètement oublier cette idée-là. Donc parier pour Google sur la 5G, en tout cas dans un pays comme la France, c'est très long terme. Quand même.
Oui, très long terme, c'est quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans?
Pour avoir une très bonne 5G partout en France, oui, facile. Oui.
Clément, le prix, 9,99€ par mois, je ne me rends pas compte, c'est cher, c'est pas cher?
Alors, techniquement, c'est pas cher, puisqu'on pourrait se dire qu'à 9,99€ par mois, on peut jouer à plein de jeux vidéo. Mais c'est faux, c'est pas le concept, c'est-à-dire que tout le monde a compris ça, c'est pas le Netflix du jeu vidéo, puisqu'en fait, il faut repayer les jeux derrière. C'est-à-dire que, en fait, pour 10€, vous avez la technologie Stadia. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer à vos jeux partout, techniquement, d'accord. C'est la théorie qu'on vous vend. On peut jouer partout avec une qualité quasiment équivalente à celle d'une console, sans avoir la console, sans avoir le matériel, et ça coûte moins cher à acheter tout ça. Mais il faut quand même payer les jeux. Donc c'est-à-dire que derrière, vous achetez vos jeux à 40, 50, 60 euros pour les jeux les plus chers.
J'explique pour les gens qui ne sont pas abonnés à Netflix ou qui ne connaissent pas, c'est qu'une fois qu'on est abonné, que ce soit 11 euros, 12 ou 7, ensuite tous les films sont gratuits.
Absolument.
On paye une fois pour tout temps. Et que là, on paye l'abonnement, voilà. Et on paye les jeux.
L'abonnement, c'est juste la technologie.
Alors, 9,99€, il y a un mois, Apple a lancé Arcade, son service de jeux vidéo. Au passage, ça avait totalement éclipsé le lancement de l'iPhone 11. Mm-hmm. Pour dire à quel point les jeux vidéo, c'est important dans le monde. L'abonnement Arcade d'Apple est à 4,99€, donc Stadia de Google, c'est le double, c'est rédhibitoire?
Non, parce que le public est différent. Déjà, Apple Arcade, il faut avoir un téléphone Apple, ce qui limite quand même le marché, alors que Stadia, vous pouvez avoir n'importe quelle marque d'ordinateur, vous pouvez jouer avec Stadia.
Vous je prends les choses à l'envers, si vous avez déjà un iPhone, vous dites, tiens, c'est seulement 5 euros,
voilà.
Alors
en
que
revanche,
j'ai un iPhone,
si vous
c'est 10 chez l'autre.
iPhone, ouais. Après, les jeux sont différents, on n'est pas sur le même public. C'est-à-dire que sur Apple Arcade, on est sur un public de jeux assez, très occasionnels, c'est des jeux très accessibles pour tout le monde. Stadia, on est sur vraiment du jeu vidéo pour ceux qui aiment déjà beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais qui en même temps n'ont pas déjà fait tous les jeux, on disait qu'ils sont déjà sortis il y a longtemps.
Alors, je sais que la question est un petit peu anticipée, mais est-ce que vous avez l'impression que Google a réussi son entrée, tous les deux?
Clairement non. Clairement non, parce qu'il y a eu déjà y a eu beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues au lancement. Il manque plein de fonctions que Stadia a promis, notamment Phil Harrison à la conférence.
Lesquelles?
Qui ne sont pas là. Bah, par exemple, pouvoir, alors, c'est très à la mode aujourd'hui, pouvoir streamer sa partie en direct qu'on puisse regarder comme sur Twitch ou sur YouTube, parce que YouTube appartient à Google. Donc normalement, il est censé y avoir un écosystème avec YouTube pour qu'on puisse, en un bouton, diffuser sa partie en direct. Ça, c'est pas un lancement. Il y a plein de petits détails. La manette Stadia qui ne fonctionne pas sans fil. Il y a plein de choses qui sont...
Pas sans fil.
Sauf sur le Chromecast, sur la télé, voilà, ça fonctionne, mais sur un ordinateur, on est obligé de la connecter. Il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas aussi à l'aise que sur console, et surtout un catalogue de jeux qui est effectivement un peu décevant. Et voilà, tout ça pour 9,99€, c'est pas suffisant. Quoi.
Et ça pourrait passer si c'était n'importe quelle autre compagnie dans le monde, en fait.
Ouais.
Ça, le truc, c'est que c'est Google. C'est la plus grande compagnie tech du monde aujourd'hui, et elle fait un lancement qui est vraiment en demi-teinte.
Et est-ce qu'ils ne sont pas dépêchés parce que justement Apple était arrivé et qu'il fallait occuper le terrain?
Je pense clairement un besoin d'être là très vite, de montrer que Google était présent sur la cloud gaming, qui est considéré comme beaucoup, enfin pour beaucoup, comme l'avenir du jeu vidéo.
Ouais.
Il fallait être présent. Google avait un train de retard sur le jeu vidéo puisqu'il n'en avait jamais fait, en tout cas pas au niveau de Sony, de Microsoft, etc. ils ont voulu être présents, sans doute un peu vite, il faut le reconnaître, oui. Et alors, je vais citer juste un chiffre pour terminer. Selon le cabinet d'études IHS Markit, le marché du cloud gaming dont on parle devrait s'élever à 2,5 milliards de dollars en 2023. C'est une croissance de 300% en 4 ans. Merci beaucoup, Clément Le Saffre. Je vous dis merci, mais je vous dis pas au revoir. On vous retrouve
tout à l'heure.
Dans les indispensables. Et merci, Jean-Clébert Loret, pour cette première en charge de la rubrique high-tech chez jeuxvideo.com.
Merci.
C'est Daphné Roulier qui est notre prochaine invitée. Elle vient nous parler de son nouveau magazine culturel hebdomadaire sur Paris 1ère, Rayon Culte. On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Daphné Roulier.
Bonjour Daphné Roulier.
Bonjour à vous.
Vous êtes émue d'être dans ces locaux ?
Extrêmement émue, on a traîné nos guêtres pendant des années ici à Canal.
Exactement, et même
devant
nos tongs.
Devant les bancs de montage.
Exactement.
Parlez pour vous en tongs.
Non, pour vous, j'étais jamais en tongs, c'était pour vous. On vous a connu pendant 23 ans, c'est ça, à Canal+, notamment à la présentation de l'Effet Papillon, émission de grand reportage. Après une saison d'absence à la télé, vous revenez sur Paris 1ère. Votre émission s'appelle Rayon Culte. Il n'y a pas de E à culte. Vous traitez de la culture sous toutes ses formes. C'est mercredi, donc ce soir, à 23h, pour dire les choses. C'est quoi le concept ?
Alors, le concept, c'est de dire aux gens qui nous regardent, la culture n'est pas un produit de consommation réservé à une élite, n'est pas réservé à des gens... Aujourd'hui, avec Internet, pour faire très simple, pour 0,99% centimes d'euros, vous pouvez avoir
une chanson
qui vous plaît à vie. Vous pouvez... je ne suis pas du tout réveillée ce matin.
C'est vrai.
Pardon.
Bon alors, je vous posais la question différemment. C'est quoi la différence entre Rayon Culte et Ça Balance à Paris, qui était l'ancienne émission culture de Paris 1ère ?
Alors, Ça Balance à Paris, c'était des chroniqueurs qui venaient débattre de la culture. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des gens qui viennent d'horizons très différents. Il y aura des gens issus de la société civile, si j'ose dire, qui ne sont pas des chroniqueurs assermentés et qui n'ont pas été essorés par la télé. Il y aura une jeune fille que vous connaissez, que vous avez vue quand elle était toute petite, qui s'appelle Ambre Chalumeau.
La fille de Laurent ?
La fille de Laurent Chalumeau. Il y aura également des gens qui ont 92 ans.
On va parler
ça va être très très large.
Alors on va parler
ils vont partager leurs coups de cœur, leurs envies, leurs découvertes.
Alors on va en entendre, on va parler des chroniqueurs après. D'abord, ça se passe, je vais parler du visuel, ça se passe dans les rayons du supermarché, vous utilisez ces codes-là.
Alors c'est très stylisé. Hein.
Bien sûr, c'est pour les détourner, pour en rire, et également pour qu'on ne vous en fasse pas le reproche. Vous avez déjà dû affronter la bronca de tous ceux qui disent que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Et au fond de vous, vous en pensez quoi ? En fait, je me suis dit, est-ce que Daphné Roulier, elle pense que la culture... est une marchandise comme les autres, ou est-ce qu'elle pense que ce n'est pas une marchandise comme les autres ?
Je pense que la culture, d'abord, le mot produit n'est pas sale.
Ouais. Est-ce que c'est un produit comme les autres, alors, pour dire la chose ?
Quand vous allez en librairie, vous allez acheter un produit. En l'occurrence, c'est un produit, parce qu'il y a un échange d'argent et de produits.
Je vais vous dire une chose, c'est un très bon exemple. On n'a pas le droit de le vendre au prix qu'on veut. C'est pas un produit comme les autres. Il y a un prix unique du livre pour pas que dans la petite librairie soit pénalisé par le gros supermarché.
Mais l'idée, Philippe, c'est d'essayer de dire que la culture est accessible à tout le monde et que vous pouvez la trouver en librairie, en supermarché et que ça n'est pas réservé à une élite. Donc, est-ce que c'est un produit ou non comme les autres ? Oui, à mon sens, c'est un produit comme les autres.
Au plafond, comme dans un supermarché, il y a des pancartes au nombre de 6, expo, livre, spectacle, musique, cinéma. Ouais. Il y a deux fois cinéma, il n'y a pas théâtre.
Et pourtant, on en parle.
Ah bah mince alors, donc vous avez fait une erreur de pancarte.
Absolument, j'ai fait une erreur de pancarte, je le dirai au chef d'écho.
Alors,
on parle du théâtre, bien sûr.
Votre invité, vous ne l'appelez pas l'invité, mais le bon client. Le premier invité, c'était Nicolas Bedos, très bon client. Ensuite, Manu Payet, très bon client. Ce soir, c'est Sylvain Tesson, l'écrivain, très bon client. Ensuite, Julie Gayet, puis Alex Lutz, que des bons clients. Comment vous allez faire quand il n'y aura plus de bons clients ?
Il n'y aura que des bons clients, c'est ça qui est bien.
Vous êtes sûr ?
Oui, certaine.
Est-ce que vous pourriez recevoir un très mauvais invité, qui a écrit un très bon livre, ou est-ce que vous pourriez recevoir un très bon client, mais qui a fait un mauvais film ?
Alors, un très bon client...
C'est une question qu'on se pose toujours dans les émissions.
Oui, un très bon client qui a fait un mauvais film, non.
Ouais.
Un mauvais client qui a fait un très bon livre, oui.
Pourquoi ?
Parce que je n'ai pas envie de défendre ce en quoi je ne crois pas. Pour le coup, ça c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Je ne veux défendre que ce en quoi je crois, ce qui m'a plu. Maintenant, les chroniqueurs, les gens qui sont là autour de la table, qui sont aussi des invités, défendent des films auxquels parfois...
Vous n'adhérez pas totalement.
Non, par exemple, on peut défendre un ovni.
Ouais. J'en ai un.
Oui, bah j'en suis sûr.
Pas de dictature du bon goût chez vous. Dans l'émission de la semaine dernière, il y a même un de vos chroniqueurs, oui. Thomas Croisière, qui a défendu le nouveau disque de Patrick Sébastien, et pas qu'un peu, on l'écoute.
Pourquoi j'ai choisi ce disque? Parce que tout simplement, il est bouleversant. Patrick Sébastien, avant d'être un chanteur, puisque là il est chanteur sur ce disque, est un imitateur. Donc c'est un imitateur, donc c'est un fan de beaucoup d'artistes, de beaucoup de chanteurs. Et là, il vient de faire un disque très personnel. Nous, bien sûr, on le connaît parce que les sardines que vous avez évoquées, parce que le petit bonhomme en mousse. Je précise au passage que le petit bonhomme en mousse est une très belle chanson sur l'apprentissage. Mmh. L'apprentissage, c'est ce petit bonhomme en mousse qui avance et qui rate le plongeoir. Non mais c'est aussi ça la pop musique, c'est-à-dire c'est ce que fait Étienne Dao, c'est-à-dire il met des paroles désespérées sur des mélodies pop. Mais c'est vrai, il y a des paroles désespérées sur
Etienne,
des mélodies pop.
Étienne, si tu nous entends, si tu nous écoutes,
ce sont des artistes pop. Voilà. En tout cas, on peut pas leur enlever ça. Mmh. Et c'est vrai que résumer Patrick Sébastien aux sardines, c'est un peu comme résumer.
Je ne résume pas.
Paul McCartney à Obladi Oblada. Voilà.
C'est vous dire à quel point nous ne sommes pas dans la dictature du bon goût.
Ah ça, j'ai bien vu, mais rigoler. Il est humoriste, Thomas Croisière, il fait de l'humour parisien.
Non, il pense vraiment. Il est très sérieux, il adore le CD de Patrick Sébastien. Il avait l'œil qui frise. Il est fou de Patrick Sébastien.
Ouais.
Et par ailleurs, moi j'ai écouté son CD et c'est pas mal. C'est pas d'une originalité folle, mais c'est pas mal. C'est des chansons à texte et c'est pas mal. Non mais rigolez pas.
Je vais vous dire pourquoi je ris. Parce que chaque jour, je suis heureux de me lever. Ouais. Et ce matin, j'étais très heureux pour plein de raisons. Premièrement, parce que nos audiences sont à la hausse, donc je suis pas mécontent. Et deuxièmement,
bravo,
entendre vous, Daphné Roulier, défendre Patrick Sébastien, franchement, je suis content d'exister et de vivre. Vous restez avec nous, Daphné.
Daphné Roulier, qui est notre invitée dans Culture Média, on parle de sa nouvelle émission culturelle sur Paris Première, Rayon Culte. On y revient avec elle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Depuis le 6 novembre, elle est à la tête d'une nouvelle émission sur Paris Première, émission culturelle hebdomadaire Rayon Culte. C'est Daphné Roulier qui est notre invitée, Philippe.
Quelle jolie voix.
On le disait, les chroniqueurs de votre émission sont présentés comme des chefs de rayon, c'est pas des chroniqueurs professionnels. Aïssa Maïga dans la dernière, la comédienne,
actrice.
Tom Novembre. Ouais. La scénariste belge Odile Doutremont, vous vouliez pas de tête connue, c'était un choix.
Il n'y a pas que des têtes connues. Là en l'occurrence, Aïssa Maïga, Tom Novembre, ils sont connus. Il y a Julie Depardieu, Sylvie Testu qui vont passer. Je voulais des gens très différents. Je voulais promouvoir la diversité. Il y a Kiddy Smile qui est venu faire la première, qui reviendra. Aïssa qui va revenir et qui est absolument solaire.
Il faut dire qui il est, parce que sinon on ne comprend pas en quoi il incarne la diversité.
Kiddy Smile, c'est le chef de file du voguing,
qui est une
danse urbaine, née à Harlem dans les années 60, une danse de contre-culture, et qui est celui, vous savez, qui était à l'Elysée, aux platines de l'Elysée en 2018.
Qui a fait les fameuses photos qu'on fait scandale.
Qui ont fait les fameuses photos scandale. Avec le t-shirt noir PD immigré, et c'est un garçon absolument merveilleux, d'un très très grand talent, qui n'était absolument pas habitué à cet exercice, qui m'a dit mais jamais je vais y arriver. Et je lui ai dit mais si, tu es tout à fait légitime pour en parler, bien plus que des chroniqueurs ou des experts assermentés. Et on a envie un peu d'ouvrir. Vous savez, c'est un peu comme le cinéma français, il y a 100 acteurs qui sont toujours les mêmes et qui détiennent les mains du cinéma français. On a envie d'avoir de nouvelles têtes. Et moi, j'ai envie de donner la parole à des gens dont ça n'est pas le métier, qui par ailleurs ont un métier à côté, mais qui ont plein de choses à dire sur la culture. Aïssa, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, était divine.
Dans la séquence, la promo de la promo, vous essayez d'objectiver un petit peu à la Bourdieu cet exercice, ce passage obligé de la promo.
À la Bourdieu, merci.
Mais oui, non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça, c'est l'objectivation bourdieusienne. Je vous posais la très bonne question que vous posez à Manu Payet. La promo, c'est bon pour l'ego, ou est-ce que vous y allez en traînant les pieds?
Alors moi, j'y vais franchement en traînant les pieds, parce que je déteste ça.
Quelle franchise! C'est quand même génial d'oser dire ça. Là, vous souffrez, vous dites...
Non, alors vous, avec,
on a
avec
fini
vous,
à 55,
avec
on,
vous,
il
avec
nous reste
vous,
3 minutes.
Non, écoutez-moi, avec vous, c'est un peu particulier parce qu'on se connaît bien, on se voit peu, mais on a beaucoup d'antécédents communs dans cette maison vénérable aux deux rues
des
Cévennes.
Donc là, ça allait.
Ici, je me sens un peu en famille.
Mais sinon, vous traînez les pieds.
Je traîne les pieds parce que c'est pas quelque chose que je sais faire. Je dois avoir un ego sous-dimensionné, mais vraiment, je n'aime pas ça.
En 2019, vous allez me dire si vous trouvez ça ou non, la télé est devenue prude, vous receviez Manu Payet. L'affiche de son nouveau spectacle, ça fait référence à l'affiche du film Emmanuel.
Absolument.
Avec Sylvia Christel, tout le monde connaît cette affiche. Il faisait référence au 4, mais le 1, cette affiche où elle est nue, topless, sur un grand fauteuil en osier.
Qui est devenue quasiment une affiche de pop culture.
Oui, mais vous-même, vous n'avez pas osé la passer telle que vous-même, Paris Première. Oui. Les tétons ont été masqués.
Ah bon?
Ah ben voilà, ben je vous l'apprends.
Non.
Vous
n'avez
pas vu le montage de l'émission?
Non.
Ben alors regardez le montage de l'émission, parce que souvent on enregistre, on ne regarde pas le montage. Et je vais vous demander pourquoi. Donc je vous dis juste ça.
Les tétons ont été masqués.
Par Paris Première.
Bon, alors je leur poserai la question, je reviendrai ici pour en parler.
Ouais. Non, pour dire que l'époque change, puisque Paris Première, on a vu des choses quand même complètement dingues, ouais. Des trucs interdits aux moins de 16 ans quand Ardisson faisait Paris Dernière. Rayon Culte, votre émission prend la succession de l'émission Chez Moix, qui était l'émission de Yann Moix, qui n'a pas été reconduite à cause de la découverte de ses écrits antisémites de jeunesse. Vous avez été appelé en rescousse, en urgence à la rentrée.
Pas du tout.
Ou c'était dans les tuyaux depuis le printemps?
Non, c'était dans les tuyaux depuis le mois de juin.
D'accord.
Voilà.
Donc vous saviez pas que l'émission de Moix allait être supprimée?
Ah ben non, personne ne le savait d'ailleurs.
Voilà,
même le principal intéressé n'était pas au courant.
Il le savait pas, personne ne le savait.
Personne ne le savait, même la chaîne ne le savait pas.
Voilà.
Je pense qu'il y a une décision.
Rayon Culte, ça passe juste après l'émission Zemmour et Nolo. Vous y avez pensé?
Non, j'y ai pas pensé, mais je pense que vu la diversité du casting avec Kitty Smile, Noir, PD, Immigré, Aïssa Maïga, je pense que Éric Zolo doit être Éric Zemmour doit être sous la table de je ne sais pas, j'imagine que, écoutez, vous savez, très honnêtement, aujourd'hui la télévision se consomme de manière délinéarisée,
bien sûr,
voilà. Donc
et la question qui fâche, les audiences, c'est comment? C'est une petite chaîne, c'est une chaîne de niche.
Les audiences, je ne sais pas. Vous les connaissez, les audiences?
Non, moi je ne les connais pas. Je les connaissais avant quand j'étais sur Paris Première, mais maintenant, il y a la TNT, il y a le câble, c'est des toutes petites audiences.
Alors je vais vous dire.
Et c'est le replay qui fait l'audience,
presque. Oui, je crois, mais en l'occurrence, je ne m'en préoccupe pas du tout. C'est un tort, j'aurais dû regarder mes audiences. Mais ce n'est pas quelque chose d'important pour moi. Ce qui est important, c'est le contenu. Est-ce que le contenu est à l'image de ce que je veux en faire? Pour l'instant, il y a des calages.
Ouais.
On va resserrer des boulons, mais toujours.
Parce que vous êtes à l'émission 3, est à l'émission 56, nous.
Oui, voilà. Mais on est plutôt content.
Bon, formidable. Daphné Roulier, je rappelle, Rayon Culte, c'est votre émission ce soir. Mais non. C'est son nouvel ami, Patrick Sébastien.
C'est pas du tout ça, son nouveau CD.
Mais non, c'est pas du tout ça, mais ça, vous savez ce que c'est? C'est la discothèque perso de Nicolas Souvent, notre réal. Il adore Patrick Sébastien. Ce soir, 23h, sera Sylvain Tesson l'invité.
Oui.
Merci beaucoup, Daphné Roulier, d'avoir été ici avec nous en direct.
Et maintenant, place au rat d'auteur, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média, le duo Stéphane De Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je.
Rien. Gilles, je pensais pas vous revoir aujourd'hui. Vous aviez l'air pas bien hier, de nouveau. Sommes jeudi.
Non, on est mercredi.
Hier, vous nous disiez que vous étiez contre la trottinette alors que vous faites de la trottinette.
Oui, c'est dangereux.
Mais vous en faites malgré tout.
Rarement. La dernière fois que j'en avais fait, c'est sous la pluie. C'est excessivement dangereux.
La pluie, c'est toujours dangereux. Même avec une voiture, c'est dangereux.
Vous avez conduit des voitures à une époque.
Ici, on parlait de la trottinette, ce qui n'a absolument rien à voir. Vous êtes déjà deux roues de moins.
Vous en faites de la trottinette?
Si j'en faisais. Moi, je fais beaucoup de trottinettes. Je trouve ça absurde qu'on ne puisse plus rouler sur les trottoirs. Sur la route, c'est hyper dangereux. Vous trouvez ça normal qu'on ne puisse plus rouler sur les trottoirs?
Mais bien sûr, il faut rouler sur les pistes cyclables.
Qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est de rouler sur un trottoir ou sur la route?
De rouler sur le trottoir pour les piétons.
Mais pour nous,
sans doute moins dangereux sur le trottoir.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Le piéton, il n'a rien demandé à personne, il est sur le trottoir. Celui qui prend sa trottinette, il choisit d'avoir une trottinette, donc il vient pas là pour emmerder le piéton.
L'automobiliste n'a rien demandé non plus, il a pas demandé à ce qu'il y ait une trottinette qui le gêne.
La piste cyclable, Stéphane, réfléchissez à
ça. Moi, je suis pour mettre les trottinettes sur la piste cyclable.
Oui.
Il y a eu des morts.
Faut faire gaffe parce que les morts, on pense toujours aux morts.
Ou les Espagnols.
C'est un peuple fier.
Oui, ouais. Comme les Kurdes. Vous intéressez un peu à la Belgique?
Mais la Belgique,
pas beaucoup. Hein.
Pas énormément parce que pour moi, c'est quasiment la France.
Et en même temps, pas tellement.
Nos habits belges.
Moi, je pense qu'on n'est pas si proches que ça.
De ça?
De ça que ça.
Et parce que nous parlons la même langue.
C'est un leurre.
C'est un leurre. Oui.
On n'a pas forcément la même culture. Culture du non-dit. Comprenne qui pourra. Vous avez besoin qu'on justifie les choses, de remplir les trous. Il n'y a pas d'hiatus. Vous voyez? Vous avez une tête de hiatus. Mais nous parlions des trottinettes.
Venons de trottinettes.
C'est un vrai produit écolo. La trottinette?
Oui.
Vous avez répondu immédiatement sans réfléchir.
Bah, parce que la trottinette marche à l'électricité.
Vous trouvez que l'électricité, c'est vraiment un produit vert?
Oh là là là. Il faut fonctionner par étapes.
Par étapes.
Pensez bien que vous ne compreniez pas ce que je voulais dire.
Vous vous exprimez très très mal.
L'électricité, c'est quand même moins polluant que l'essence.
Mais comment on fabrique les batteries électriques?
Ah voilà.
Et elles terminent où après, les trottinettes?
Où est-ce qu'ils vont? Où
vont-elles? Un trottinet et une trottinette.
J'ai pas suivi la filière, mais j'espère qu'elles sont correctement recyclées.
Voilà, c'est ça le problème. Vous ne suivez pas les filières.
Non. Et quelle est votre réponse à vous? Parce que vous me posez plein de questions.
Moi, je vais vous répondre demain.
Bien, j'attends demain avec impatience.
À demain alors.
Vite, vite, à demain.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain à 9h55 en podcast sur Europe 1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec la chanteuse Jeanne Chéral. Son nouvel album L'An 40, elle le dédie à toutes les femmes de 40 ans. Pas 39, pas 41, 40. Elle s'apprête à monter sur la scène des Folies Bergères et surtout en tournée dans toute la France, même dans les petites salles. Et vous savez que c'est souvent là qu'ont lieu les meilleurs concerts. Et puis dans les indispensables, trois bandes dessinées, dont une BD adaptée d'un récit de Sylvain Tesson dont nous parlions, qui vient de remporter le prix Renaudot avec La Panthère des Neiges. Ce sera avec Mathieu Charrier. Et puis Clément Le Saffre va revenir pour un jeu vidéo avec une star au casting de ce jeu, Léa Seydoux.